Jambaud de l'Atelier des médias. On est ensemble pendant 20 minutes et cette semaine, je vous propose de réécouter deux entretiens que j'avais enregistrés au Congrès mondial de l'enseignement du journalisme. Il se tenait en juillet 2019 à l'Université Paris-Dauphine. J'y avais rencontré la directrice du Centre d'études des sciences et techniques de l'information qui forme au journalisme à Dakar des jeunes venus de toute l'Afrique de l'Ouest. Quelle utilisation des nouveaux médias? Quelle place pour les langues locales? Quel débouché? On a fait le point avec elle. Mais avant cela, on va discuter journalisme de données avec la Tunisienne Noura Belaïd. Elle est directrice des études de l'Université centrale de Tunis.
Atelier@rfi.fr.
Bonjour, je suis Noura Belaïd de la Tunisie. Je suis enseignante de journalisme, directrice des études donc l'Université centrale de Tunis. En même temps, je suis éditrice dans l'Observatoire arabe du journalisme. Et voilà.
Vous intervenez notamment sur le data journalisme dans le monde arabe. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Où est-ce qu'on en est? Quels sont les pays qui sont en pointe sur le data journalisme dans le monde arabe?
Alors tout simplement, moi je fais partie des Tunisiens, des journalistes tunisiens, parce que en parallèle, j'ai démarré ma carrière non seulement enseignante, mais j'étais journaliste. Donc je suis parmi les journalistes qui ont profité en 2013 de la première formation de data journalisme en Tunisie. Et donc, mais vu que j'ai eu mon bac maths, donc j'ai des compétences, tout ce qui est donc utilisation des données, extraction de données et autres, plus développées qu'un journaliste donc littéraire. Et je me suis trouvée intéressée par ce nouveau format de journalisme, étant donné que les gens aujourd'hui, les lecteurs d'une manière générale ou les téléspectateurs, ils en ont marre de regarder juste la télé et d'entendre parler donc pas mal de choses et sinon lire un long article. Donc ils préfèrent avoir donc des données présentées d'une manière plus claire, plus lisible, sous forme de graphes, sous forme d'infographie ou autre. Donc le cours de data journalisme, après dans les écoles du journalisme, il a été intégré dans des cours de presse électronique. C'est comme une section réellement. Ça, c'était au départ. Et en 2018, j'étais contactée par un collègue, Amr El-Ayraq, qui est directeur exécutif d'Infotabs, le premier projet basé sur le data journalisme dans le monde arabe. En Égypte déjà, ils ont réussi l'année dernière le concours international Gen qui a eu lieu à Lisbonne. Ils ont eu donc un prix international. Du coup, on a lancé en 2018 à l'Université américaine du Caire le réseau des journalistes de données arabes. Et c'était une première expérience donc dans le monde arabe pour rassembler les journalistes qui travaillent sur cette thématique. Et de mon côté, en tant que membre donc du board du comité, mon rôle c'est promouvoir le data journalisme en tant que matière, en tant que culture dans les universités arabes. Et à part ça, dans le monde arabe, on a un problème, parce qu'avant de passer déjà à la visualisation des informations, à la présentation visuelle des informations, on a ce problème d'accès à l'information. Si on regarde donc le contexte général du pays du monde arabe, il n'y en a que 4 ou 5 pays qui ont déjà une loi qui traite la question de l'accès à l'information. J'ai de la chance d'être en Tunisie parce que notre expérience, elle est promoteuse et donc beaucoup de pays nous contactent réellement pour avoir donc ce modèle de loi chez eux. Donc on encourage l'accès à l'information. Mais en même temps, si on encourage l'accès à l'information, on va limiter d'une autre façon, d'une autre manière. Donc ce règlement déjà législatif est très important avant de passer à la promotion du journalisme de données. Et à partir du moment donc on est à la fac, on apprend aux étudiants, si vous n'avez pas accès à l'information, vous devrez changer de sujet. Vous devrez trouver un autre angle pour traiter votre sujet afin d'avoir accès aux informations nécessaires. Parce que vous ne pouvez pas travailler sur un sujet là où il n'y a pas de données. Et donc nous, on a mis en place, par exemple en Tunisie, on a l'instance nationale donc, de l'accès à l'information, mais en même temps, on a l'instance nationale de protection de données. C'est contradictoire, entre autres. Vous voyez ?
Merci beaucoup.
Merci à vous aussi. Hein.
C'était Noura Belaïd, directrice des études de l'Université centrale de Tunis. Place maintenant à une autre directrice, mais à Dakar cette fois. Elle s'appelle Kousson Traoré Sall. Elle est à la tête du CESTI, le Centre d'études des sciences et techniques de l'information.
Je m'appelle Kousson Traoré Sall, la directrice du CESTI.
Alors le CESTI, c'est la plus vieille école de journalisme en Afrique de l'Ouest. Combien d'étudiants journalistes sont sortis de votre école ?
Elle a été créée, cette école, en 1965 avec l'appui de l'UNESCO et des coopérations françaises et canadiennes. Depuis sa création, en 1965, le CESTI a formé 1222 journalistes, dont 619 Sénégalais, et 603 non-sénégalais. Nous sommes une école panafricaine qui regroupe plusieurs nationalités. Actuellement, nous avons une dizaine de nationalités au CESTI, à tous les niveaux de la formation. Une école dont la vocation première est de former des journalistes.
Alors, vous formez au journalisme, mais aussi à la communication.
Parfaitement. Nous sommes ouverts à la communication. D'ailleurs, le diplôme que nous délivrons à nos étudiants sortis du CESTI s'intitule depuis 2010 « Diplôme spécialisé en journalisme et communication ». Nous avons voulu offrir à nos étudiants des opportunités en communication parce que c'est un domaine qui est en pleine mutation dans notre pays et que la formation en communication démarre plutôt à partir du niveau master.
Et alors vos étudiants, quand ils sortent du CESTI, vers quoi se dirigent-ils ? Principalement vers le journalisme ? Ou alors il n'y a pas assez ou pas encore assez peut-être de débouchés dans le journalisme et donc ils se tournent parfois vers la communication ?
Alors les étudiants qui sortent du CESTI sont d'abord des journalistes, mais des journalistes qui sortent avec suffisamment d'outils en communication et dans les autres secteurs de l'information et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ils deviennent aussi, comme je l'ai dit hier, des journalistes reporters d'images. Ils sont à la fois des monteurs, des réalisateurs, des caméramans, et vraiment des journalistes bien outillés pour pouvoir répondre aux nouvelles exigences du métier de nos jours.
Que souhaitent-ils faire les étudiants sénégalais ou non sénégalais qui arrivent au CESTIC ? Quel est leur rêve, justement ?
Le rêve, c'est de suivre une formation de qualité. Parce qu'il faut le dire, nous avons une formation de qualité orientée spécialement au journalisme, avec des enseignants, des universitaires de différentes spécialités, mais encore avec des professionnels qui ont une certaine expérience dans le métier du journalisme et de la communication. Donc, en sortant du CESTI, est un journaliste professionnel qui a des aptitudes en communication et aussi dans les technologies de l'information et de la communication, qui sait faire un document ou faire une production sans pour autant avoir besoin d'un technicien, d'un monteur ou d'un réalisateur.
Il y a quelque chose qui m'a interpellé dans la formation du CESTI, c'est les formations en langue locale, en Wolof, en Poulard, etc. Pourquoi ?
Oui, c'est vrai que depuis deux années, nous avons repensé la formation au CESTI en intégrant l'enseignement des langues nationales codifiées du Sénégal, parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a maintenant une multiplication d'émissions en langue nationale, c'est d'un, mais aussi permettre à nos étudiants d'atteindre une plus large cible, parce qu'effectivement, nous organisons le concours dans 5 pôles régionaux du pays. Nous allons vers les candidats du pays, aussi dans un souci de partager notre expertise et de nous ouvrir plus à la société. Nous avons dit qu'il était temps quand même que les étudiants apprennent les langues nationales pour pouvoir donner les informations en langue nationale d'une façon beaucoup plus professionnel.
Et ce que vous faites aussi, ce que vous demandez, ce que vous imposez à vos étudiants, c'est d'aller en milieu rural pour faire des semaines en immersion et les sortir de Dakar et des grands milieux urbains.
Oui, le stage pratique est une exigence, c'est une phase obligatoire de la formation des journalistes en deuxième année. On les met en situation, ils sortent de Dakar, ils vont dans une localité du pays. Et c'est pour leur permettre aussi de mieux comprendre les réalités socio-culturelles des localités éloignées du pays. C'est le rôle du journaliste de pouvoir s'adapter à toutes sortes de réalités.
Parce que vous avez l'impression que vous aviez l'impression auparavant peut-être que des jeunes journalistes étaient un petit peu déconnectés de ces réalités, que c'était des jeunes qui venaient peut-être de certains milieux plus favorisés et qui n'étaient pas en phase avec l'ensemble des réalités de la société sénégalaise.
Alors, la spécificité au CESTI, c'est que nous ne recevons pas seulement des journalistes sénégalais, nous recevons aussi des journalistes d'autres nationalités qui ne connaissent pas du tout les réalités du pays. Donc c'est toujours une expérience probante de les aider à s'adapter au contexte culturel, social, économique, parfois politique des localités éloignées de Dakar, parce que tout ne se passe pas à Dakar seulement. Donc, et c'est dans ce sens que nous avons vraiment mis l'accent sur cette pédagogie active et qu'après ce séjour pédagogique d'une semaine, ils reviennent à l'école où ils font ce qu'on appelle une session intensive avec des productions quotidiennes dans les différentes spécialités du métier.
Alors, vous dirigez une école de journalisme en Afrique de l'Ouest. Y a-t-il des spécificités à l'enseignement du journalisme en Afrique de l'Ouest? Vous qui voyagez beaucoup et vous voyez ce que font vos collègues en Europe, aux États-Unis, etc. Est-ce qu'il y a des choses qu'on enseigne et des façons de travailler propres à l'Afrique de l'Ouest?
Oui, il y a effectivement des spécificités d'une école à une autre. Chaque école a ses réalités, mais nous nous retrouvons quand même parce que ce sont les mêmes fondamentaux du métier qui sont enseignés aux journalistes. Ce sont ces modules qui aident à renforcer les aptitudes du journaliste à mieux décrypter, à analyser, à collecter, à trier et à véhiculer l'information vraie et vraiment la rendre accessible au public. Mais des innovations sont notées dans les écoles en fonction des besoins de nos journalistes dans nos différents pays.
Et justement, ces journalistes, quand ils sortent d'école, ont-ils des débouchés nécessaires et, trouvent-ils du travail rapidement?
Alors, nous, notre mission est non seulement de leur donner une formation de qualité, mais encore de leur donner suffisamment d'outils pour qu'ils soient fonctionnels dès qu'ils sortent du CESTI. C'est vrai que l'insertion professionnelle est un problème dans tous les pays africains, mais le journaliste qui est suffisamment outillé pourra trouver facilement un métier, surtout s'il a certaines compétences qui sont liées à son développement personnel.
Que peut-on souhaiter au CESTI, donc au Centre d'études des sciences et techniques de l'information de Dakar, pour le futur?
Alors, pour le futur, nous souhaitons encore rehausser l'image de notre école, parce que c'est vrai que c'est avec fierté que nous le disons. Nous sommes une école de renommée et nous sommes une école ouverte au monde extérieur parce que nous organisons des sessions de formation dans des pays partenaires. Nous organisons le concours chaque année dans certains pays d'Afrique. Nous recevons même des étudiants de la France qui font le concours et qui viennent faire une formation à Dakar. Nous avons aussi initié des formations de renforcement de capacité des journalistes qui n'ont pas eu l'opportunité de suivre ou d'avoir un encadrement professionnel dans le cadre d'un partenariat avec le syndicat des journalistes de Dakar, le comité des éditeurs et diffuseurs de presse et le ministère de la communication. Donc nous sommes une école ouverte au monde extérieur, mais notre souci est de partager notre expertise avec le monde extérieur et nous partageons avec beaucoup de générosité notre expertise. Nous travaillons pour toujours renforcer l'image de notre école à travers la formation que nous donnons, mais aussi nous apportons des innovations majeures dans notre système de formation pour que nos étudiants soient toujours parmi les meilleurs journalistes.
Recevez-vous beaucoup de femmes qui veulent être des journalistes, justement? Est-ce que vous avez une politique volontariste pour avoir plus d'étudiantes?
Ah, c'est une question pertinente en tant que femme. Nous organisons un concours. Et c'est un concours national, d'abord, qui est ouvert aux étudiants qui ont la licence ou le master, mais aussi ouvert aux élèves des lycées sous réserve de l'obtention du bac. Nous organisons un concours vraiment transparent en mettant des anonymats sur les feuilles d'examen et à la délibération. Les membres du comité pédagogique n'ont aucune idée de l'identité des candidats. Nous délibérons dans la plus grande transparence. Et je me rappelle, il y a quelques années, nous avons retenu, après la délibération, une promotion sans femme. Il n'y avait aucune fille dans la promotion et les étudiants même ont produit un film dans ce sens. Pourquoi il n'y avait pas de femmes ? J'ai dit non, ce qui est plus important, c'est de retenir les meilleurs étudiants. Je souhaiterais qu'il y en ait encore des filles, qu'il y ait encore des filles qui soient retenues. Mais actuellement, nous avons des filles parce qu'ils ont aussi un excellent niveau. Hein. Mais comme nous ne décidons pas de leur admission au concours, parce que c'est un problème de genre qui se pose là, donc c'est un concours qui est ouvert à tout le monde, aux garçons, aux filles, et nous retenons les meilleurs, que ce soit les filles ou les garçons.
Merci, Kousson Traoré-Sall.
Je vous remercie.
C'était Kousson Traoré-Sall, directrice du CESTI, le Centre d'études des sciences et techniques de l'information, basé à Dakar. Avant de se quitter, place à Mondoblog Audio. Mondoblog, c'est le réseau des blogueurs francophones de RFI, porté par l'équipe de l'Atelier des médias. Ça ne vous a pas échappé, en début de semaine, c'était Noël. Le blogueur togolais Renaud Dossavi trouve tout de même sacrément incongru d'utiliser en Afrique les références des pays du Nord, à commencer par le Père Noël.
Sait-on exactement ce que l'on fête à Noël ? Le nom et les origines de la fête montrent bien que c'est une fête qui ne nous concerne pas, nous, Africains. Le symbole de Noël, c'est ce gros bonhomme blanc venu du pôle Nord, en traîneau et vêtu de costume rouge doublé d'une épaisse fourrure. Eh bien, moi, ce Père Noël, il m'énerve. Mais vraiment, il m'énerve ! Étant donné qu'on est en Afrique, avec 30 degrés à l'ombre, je ne vois pas quelle est la pertinence du Père Noël boréal venu du Grand Nord enneigé. Des champs de neige en Afrique subsaharienne. Sérieux ? On a l'air de quoi ? Un Père Noël avec ses rennes qui essaient de trouver la cheminée de nos maisons. C'est quelle affaire, même. Dans le village, ni une nuit, on lui jette tous les sorts. Si nous, Africains, sommes vraiment obligés d'intégrer ce mythe européen dans notre univers culturel, autant l'adapter et le mettre à notre sauce. Voilà ce que je propose. Le pépé rougeux de Noël, il faut qu'il s'adapte. On va le relooker pour qu'il s'acclimate à notre bain culturel et géographique. Pour commencer, je dégage le pôle Nord et je le remplace par le désert de Sahara. Je remplace les rennes par des chameaux. Un traîneau tiré par des chameaux volants. Est-ce que c'est pas la classe ? Et on oublie le veston machin tout rouge là. À remplacer par une belle djellaba ou un joli boubou. Pour les cadeaux, ce sera au pied d'un baobab ou d'un palmier. Et bien sûr, on oublie le gars blanc là. Le Père Noël est noir. Il s'appelle Nukunu Olamide Elolo Limam, dit Baba Noël. Et voilà, c'est réglé. Voilà comment on se retrouve avec un Baba Noël bien intégré et assimilé. Et elle va belle la vie, franchement. Imaginez notre Baba Noël africain placardé un peu partout dans la capitale du Nord. Je serais bien content de festoyer avec le gars l'année prochaine. Bon, allez. Salutations à toutes et à tous. Et où que vous soyez, joyeux Noël et bonne année.
J'espère que le Baba Noël a été généreux avec vous et avec Renaud Dossavi, un de nos mondoblogueurs togolais. Vous pouvez retrouver son billet « Et si le Père Noël devenait africain » sur son blog « Mots et murmures » et sur mondoblog.org. C'est tout pour l'Atelier des médias cette semaine, une émission préparée avec Camille Deloche, Colin Gruel et Louise Guibert. Simon de Creuse était à la réalisation. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes et vous donne rendez-vous en 2020 pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.
RFI.